Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Bonjour à tous et soyez bienvenus sur France Bleu comme chaque jour un thème qui vous concerne. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui a toujours suscité les passions, les débats aussi, puisqu'il s'agit de la chasse. Et avant toute chose, je rappelle que ce n'est pas un débat pour ou contre la chasse, mais comme tous les jours, on donne la parole à ceux qui sont concernés par le sujet ou qui l'ont été. La semaine dernière, on a fait une émission sur les véganes. Et bien aujourd'hui, c'est la chasse et ça fait du monde concerné. En France, on compte plus d'un million de pratiquants, ce qui en fait le troisième loisir des Français. Mais est-ce qu'on est chasseur comme on fait du football, par exemple ? C'est pas sûr. Alors justement, on va en parler. Vous êtes chasseur, venez nous dire comment vous avez découvert cette pratique. Si c'est une affaire de famille, de tradition, venez nous dire aussi comment vous le vivez au quotidien, si vous en parlez, si vous vous cachez de peur des réflexions. On va aussi parler de législation, d'écologie. On a beaucoup de choses à se dire. Ça tombe bien, on a une heure pour le faire. 0810 055 056 pour nous rejoindre. Avec aujourd'hui notre grand témoin, Antoine Berton, le rédacteur en chef du Chasseur français. Bonjour Antoine.
Bonjour Vanessa.
Ça y est, la saison de la chasse est lancée. Oui. Et elle a été lancée avec pas mal de débats quand même encore cette année.
Il y a eu un coup d'envoi présidentiel avec cette réforme de la chasse qui a été présentée donc par le président Macron aux côtés du président Willy Schran de la Fédération Nationale des Chasseurs. Et la démission annoncée dans la foulée de Nicolas Hulot, c'était un peu le prétexte, hein, mais le ministre de la Transition écologique le laissait entendre depuis quelque temps. Voilà, donc c'est un début de saison en fanfare, mais on préfère nous la campagne. Dans la campagne, eh bien voilà, la moitié sud, la moitié nord ont ouvert la saison de chasse. Plutôt bien, puisque le gibier est au rendez-vous. Et il nous reste quelques départements du Val-de-Loire et de la Normandie qui vont rejoindre l'ensemble de la France cynégétique.
Eh ben on a envie d'entendre toute la France qui chasse aujourd'hui. C'est vraiment le but de l'émission. Sans polémique, sans débat. Chaque jour, c'est une fenêtre. Aujourd'hui, c'est la fenêtre des chasseurs. Et vous êtes tous les bienvenus sur France Bleu. On se dit tout.
Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu.
Depuis toujours, les hommes chassent. Au début, on le sait bien, c'était pour se nourrir et se défendre. Aujourd'hui, c'est par plaisir, mais pas que. Il paraît que la chasse est aussi nécessaire au bon équilibre de la faune. Mais les chasseurs déchaînent les passions. On le voit bien, on l'entend bien. Oui, vous tuez des animaux sans défense, c'est ce qu'on entend souvent. Alors attention, aujourd'hui, on ne fait pas de débat. On n'est pas là pour faire de polémique non plus, mais pour mieux comprendre cette passion qui vous anime. Si vous êtes chasseur, venez nous parler de cette tradition, de vos valeurs, de votre famille, du plaisir que vous prenez à chasser. Et de l'image parfois désastreuse véhiculée quand on parle des chasseurs. 0810 055 056 pour témoigner avec le rédacteur en chef du Chasseur français, Antoine Berton, qui est notre grand témoin, et avec Serge qui nous appelle depuis le Gard. Bonjour Serge.
Oui, bonjour à vous.
Vous êtes chasseur et également impliqué, vous dites, dans des programmes de protection de la nature. Ça, c'est intéressant.
Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas du tout d'incompatibilité. Donc la chasse est un acte que l'on pratique depuis toujours et qui s'est maintenu, pérennisé dans les zones rurales. Donc c'est quelque chose qui fait partie d'une culture locale. Alors en ce qui me concerne, en effet, je suis chasseur et à la fois agent d'une réserve naturelle, donc complètement liée à des préoccupations environnementales. Et je ne vois pas du tout où est le problème, si ce n'est sur des questions d'idéologie ou de dogme, qu'il faudrait ne pas du tout tuer d'animaux. Alors je peux comprendre que certains ne puissent pas le faire, mais quand ça fait partie d'une culture et que c'est fait d'une manière modérée, il n'y a pas de souci, tout est question de mesure, c'est comme dans d'autres domaines.
Si on ne tuait aucun animal aujourd'hui, ça donnerait quoi pour l'environnement? Parce qu'on dit que ça sert aussi à réguler beaucoup, non? Je sais pas, Serge ou peut-être Antoine, je sais pas qui veut répondre.
Bonjour Serge.
Bonjour Antoine.
Alors, si on ne tuait pas d'animaux, nous chasseurs, la nature s'autorégulerait elle-même. Vous savez, la nature a horreur du vide et elle fixe elle-même son propre développement ou stagnation ou régression. L'homme n'est qu'un facteur d'accélération ou de régression là-dessus. Ce que dit Serge est très intéressant. Cette année, la campagne de la Fédération Nationale des Chasseurs porte sur le rôle écologique des chasseurs. Et je vais rappeler que l'écologie n'est pas un mouvement politique. L'écologie, c'est l'interaction d'un être vivant avec son environnement. Et c'est ce que font les chasseurs. Alors, une partie de cette interaction est la prédation. On va chercher un animal, on va le forcer et on va le prélever, le tuer, parce que je crois qu'il faut avoir un langage vrai. Et à côté, on travaille sur l'environnement de l'animal que l'on chasse parce qu'on veut qu'il y ait des animaux. Et quand on va travailler pour la perdrix rouge, puisque c'est dans le secteur de Vauvert plutôt que de la perdrix grise, quand on travaille pour le lièvre, quand on travaille pour le grand gibier, ça profite à toutes les autres espèces. Et c'est pour ça qu'on dit que les chasseurs sont des écologistes, parce que de leur interaction générale, ça profite à toute la biodiversité.
Et vous trouvez, Serge, que c'est quand même compliqué d'échanger, d'en parler? Je disais, ça suscite toujours des passions et les discussions sont même parfois compliquées, hein?
Oui, c'est compliqué parce que ce débat, c'est ultra passionné, dans la mesure où on a trop à faire à parfois des gens hyper sensibilisés, sans être pragmatiques et être conscients du rôle que peuvent avoir des chasseurs, ou tout au moins du fait qu'ils n'ont pas une action négative sur l'environnement. Mmh. Ils sont arc-boutés sur des dogmes, j'y reviens, et c'est là où le bât blesse, dans la mesure où il n'y a pas d'ouverture à la réflexion, à cette compréhension qui doit y avoir sur le fait que la chasse est tout à fait tolérable par la nature et peut être utile, comme Antoine vient de le préciser. Ça, c'est encore autre chose. Mais le fait de pratiquer ça de manière récréative, c'est tout à fait tolérable par la nature.
C'est une histoire de famille chez vous, la chasse?
Oui, de famille et au-delà même. Moi, j'habite dans un territoire rural, donc c'est quelque chose qui fait partie du quotidien des gens, que les paysans pratiquaient à côté de leur activité principale agricole. Alors aujourd'hui, c'est devenu plus un loisir, parce que de plus en plus, on est dans des démarches, on va dire, citadines, même dans les zones rurales. C'est de plus en plus habité par des gens qui viennent de la ville, qui eux-mêmes passent à la pratique de la chasse. Mais bon, voilà, il faut quand même garder raison et faire attention à l'intégrisme que certains portent pour essayer d'attaquer cette activité qui peut être bénéfique pour la nature dans la mesure où elle est faite de manière raisonnable. Si vous voulez me permettre, si j'ai un peu de temps, par rapport à ce que certains dénoncent du blanc-seing qui aurait été donné aux chasseurs par le président de la République, il faut mettre un bémol, puisque la grande majorité des chasseurs vont payer un permis départemental, qui celui-ci ne sera pas du tout ne sera pas réduit en fait, par rapport au coût du permis national, qui lui va être réduit de moitié. Donc attention, il n'y a pas eu du tout de
On aura l'occasion d'en revenir, hein, je pense, Serge, on aura l'occasion d'y revenir. L'émission est longue encore. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir ouvert l'émission. Et la chasse continue dans On se dit tout.
Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
La chasse est une culture, une passion et elle draine beaucoup de monde puisque plus d'un million de Français la pratiquent. Mais aujourd'hui, on a envie de savoir qui sont vraiment les chasseurs derrière l'image un peu rustre qu'on leur prête parfois. Ce qui vous anime dans cette passion pour la chasse? Est-ce qu'on parle d'ailleurs de passion, de tradition? On va parler échange avec la nature, avec vos chiens, le partage, la cuisine aussi. Votre mission sur la régulation des espèces, comment vous êtes formé, quels sont les contrôles? On a beaucoup de choses à se dire et ça tombe bien, c'est vraiment votre émission aujourd'hui, vous qui êtes chasseurs. On compte sur vous pour nous en parler au 0810 055 056 en compagnie d'Antoine Berton, le rédacteur en chef du Chasseur français, et avec Arnaud qui nous rejoint depuis le Pays Basque. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour.
Vous êtes chasseur depuis l'âge de 16 ans.
Oui, c'est ça.
Avec votre père, vous avez commencé alors?
Oui, tout à fait, comme souvent à la campagne.
Hein. Et vous êtes dit, c'est quelque chose qui est naturel, normal pour moi?
Oui, c'est absolument. Oui, tout à fait, oui. Absolument. C'est naturel. Pour moi, c'est naturel.
Et vous dites, je vois sur votre petite fiche, que c'est indispensable aujourd'hui pour vous, la chasse.
Oui, c'est indispensable, déjà, parce que, comme je dis souvent, la France n'a plus de nature primaire. Et la France est très agricole, urbanisée, et l'homme est obligé d'intervenir si on veut quelque chose, quoi. Hein. Parce que les habitats sont attaqués. Et si les chasseurs n'étaient pas là, il y aurait longtemps qu'il n'y aurait plus de faisans, lièvres, perdreaux et compagnie, quoi. Hein.
Ah ouais? C'est la question que je posais tout à l'heure, finalement, si on ne touchait pas à la nature, si on ne touchait pas aux animaux, qu'est-ce qui se passerait? Là, on a la réponse avec vous. Vous dites les habitants sont attaqués, il y a Marie qui nous a appelé. Non, pas Marie, je me trompe, j'ai oublié son prénom.
Hélène.
Je ne sais plus, sur les sangliers, à propos des sangliers, voilà. Les sangliers aujourd'hui, ils ne s'autorégulent pas entre eux, il n'y a personne qui tue les sangliers, donc il faut des chasseurs, c'est ça Arnaud?
Oui, il faut des chasseurs pour tenir les populations, mais surtout des populations saines, parce que bon, on sait très bien que les sangliers vont développer des maladies pour s'autoréguler, mais c'est pas nécessaire, hein. Si on peut garder des populations saines, c'est encore mieux, quoi. Hein. Et puis le problème, c'est que les gens pensent que le jour où il y aura plus de chasse, on n'aura plus d'animaux. C'est absolument faux. Ce sera des fonctionnaires ou des entreprises privées qui le feront, parce que en France, il y a par exemple, si vous avez un tel pourcentage de cerfs sur un territoire, vous pouvez pas en avoir plus, sinon ils mettent en péril la forêt. Et on est obligé d'en abattre, peu importe, on est obligé d'en abattre.
Mais ça, on l'entend jamais. Je suis désolé, mais pourquoi on vous entend pas plus sur ce genre d'argument, Arnaud ?
Ah, mais je sais pas, parce qu'on voit toujours le chasseur et son fusil, mais c'est pas que ça, c'est qu'en France, si on n'intervient pas, si moi j'ai un modèle à côté de chez moi, il y avait autrefois une association de chasse qui n'existe plus parce qu'il n'y a plus assez de chasseurs, eh bien on voit plus un lièvre, on voit plus un perdreau, on voit plus un faisan, il y a deux chevreuils qui se battent en duel, et alors que chez moi, là où je chasse un peu plus loin, ben là il y a de tout, et on voit absolument de tout, et là par exemple, on a replanté du faisan, et on a droit qu'à tirer un faisan par équipe et par sortie, et pas plus de trois par saison.
C'est ce que je disais, Antoine Berton, c'est ce que je disais à Arnaud, pourquoi on n'entend pas plus ce genre d'argument quand on parle de la chasse ? Ce serait la base pour que les gens peut-être aient un regard différent sur les chasseurs ?
Parce que les chasseurs sont inaudibles. Alors le grand public a l'impression qu'on ne donne la parole qu'aux chasseurs, que le président accueille les chasseurs, tout ça. Mais en fait, la chasse française est inaudible parce que la plupart des médias, et là je salue le travail de France Bleu, Réseau National, parce que vous faites vraiment votre mission de service public et vous donnez la parole à tout le monde, y compris ce million de chasseurs, comme vous incluez les végans ou autres. Voilà, vous faites votre job de journaliste et ça, je le salue. Les chasseurs, on les désigne, on les catalogue, ce sont des gens qui tuent des animaux, point.
Et on cherche pas à savoir.
On cherche pas à savoir. Ce témoignage d'Arnaud, à la limite du Béarn et du Pays Basque, est tout à fait vrai. Si les chasseurs n'ont pas la maîtrise du foncier, enfin du territoire, les animaux disparaissent. Que l'on le veuille ou pas, les résultats sur les territoires gérés par les chasseurs sont souvent bien plus probants que sur des parcs nationaux. Je vais parler juste d'une espèce emblématique des Alpes, le bouquetin. Le bouquetin a un statut de protection totale. On n'a pas le droit de tirer le bouquetin, c'est une espèce protégée. Eh bien, vous avez des services de l'État qui sont payés chaque année pour tuer, pour massacrer 400-500 bouquetins. C'est une gabegie payée par les impôts des Françaises et des Français. Parce qu'on est dans le dogme et on refuse de comprendre que la chasse pourrait apporter une solution beaucoup plus pondérée et qui permettrait un développement harmonieux de l'espèce bouquetin. Ça, vous l'entendez nulle part. Merci France Bleu.
Merci Arnaud, surtout d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairés. Et on continue de le faire avec vous, grâce à vous et vos témoignages sur France Bleu.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
Le chasseur n'a pas toujours bonne réputation, les détracteurs sont nombreux et on a rarement l'occasion d'écouter les arguments des chasseurs. Et bien aujourd'hui, on a décidé de vous donner la parole à vous, chasseurs réguliers ou occasionnels, passionnés et fins connaisseurs. Venez nous parler de la chasse, de tradition, de la place des femmes aussi dans la chasse, on les entend pas beaucoup, et de comment vous arrivez aussi à défendre votre passion face à vos détracteurs. Je vous attends au 0810 055 056 en compagnie d'Antoine Berton, notre grand témoin, rédacteur en chef du Chasseur français. Et Nicolas vient de nous rejoindre depuis le Loir-et-Cher. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour.
Vous chassez à l'arc.
Oui.
Waouh. Comme à l'ancienne en fait.
Oui, oui, si on peut dire, à l'ancienne, oui, c'est plus le contact avec l'animal, l'approche, l'esprit, c'est pas de tirer un animal à 200 mètres et de dire « ouais, ça y est, j'ai fait un animal ». Non, faut respecter l'animal, on essaye de l'approcher le plus possible et de le flécher. Ça marche pas à tous les coups, c'est des heures de patience, d'approche et de contact avec l'animal, de réfléchir comme lui, qu'est-ce qu'il pense, comment il est, d'approcher au bon vent, c'est une technique.
Comment ça s'apprend d'ailleurs, cette technique, Nicolas ?
Beaucoup de temps dans la nature, de contact avec la nature, l'élément, et le vent, et surtout beaucoup de contact avec les animaux.
C'est là qu'on se rend compte, Antoine Berton, qu'il y a plein de façons différentes de chasser.
Ah oui, il y a plusieurs dizaines. J'avais sorti dans La Chasse pour les Nuls, on avait compté à peu près 90 modes de chasse en fonction.
Ah oui, quand même. Les grandes familles, c'est quoi alors ?
Ah, vous avez, là, par exemple, la chasse à l'arc. Vous avez la chasse à courre, donc avec l'utilisation de meutes de chiens d'ordre et à cheval. Vous avez aussi la chasse à courre à pied, puisqu'on poursuit le renard, le lièvre ou le lapin. Vous avez les chasses avec des engins tels que les filets pour le vanneau, pour les alouettes, pour les pigeons ramiers quand ils rejoignent le sud de la France. Vous avez ensuite la chasse à tir avec des fusils pour le petit gibier à plumes et à poils, comme le lapin et le lièvre.
Oui,
et beaucoup. La chasse à tir des grands animaux, et là, c'est à l'approche, à l'affût ou alors en battue, donc les chasses collectives. Vous voyez tous ces chasseurs vêtus de chasubles orange pendant les mois d'hiver. Je vais revenir au déduit dans lequel exerce Nicolas. Il parle de ce contact animal et je crois qu'il y a cette animalité de l'homme qui se révèle chez les grands chasseurs à l'arc. Et vous avez cette discipline qui progresse et qui attire beaucoup parce que justement il n'y a pas de coup de feu. Puis il y a surtout l'engagement du chasseur au service de son environnement, de la nature et la confrontation à soi-même. Parce que comme le disait Nicolas, on ne tire pas à 100 mètres ou 200 mètres, on doit armer son arc et décocher sa flèche à moins de 20 mètres. Donc chaque pas expose le chasseur au sens du gibier. Il parlait du vent pour l'odorat, mais aussi à l'ouïe. On dit que le chevreuil voit avec les yeux, le sanglier voit avec le nez et le cerf voit avec les oreilles.
C'est joli ça. Nicolas, vous chassez avec vos enfants, je vois.
Oui, je pratique. Donc, j'ai plusieurs cordes à mon arc.
Ah bah oui.
Je suis fils de chasseur depuis 3 générations. Ma fille est à 4e génération avec mon fils. Ma fille a 10 ans, mon fils a 5 ans. Mon père a un équipage de chasse à tir, donc principalement sur le chevreuil. On chasse aussi le lapin à cour. On fait tout ce qui est présentation beauté.
Pour le chien.
Comment ?
Pour le chien.
Pour le chien.
Oui, pas pour le chasseur. Quoique, on a le droit d'être beau quand on va chasser. On a le droit.
Pas pour le chasseur, pour le chien. Après, tout ce qui est pour la chasse à l'arc, je pratique. Mon fils commence à s'amuser avec son arc.
Mais après, très engagé.
Comment ?
Vous êtes très engagé, bravo.
On fait ce qu'on peut pour essayer de les mettre au contact de la nature plutôt qu'au contact de la télé et du téléphone portable.
Merci Nicolas d'être intervenu sur France Bleu. La chasse, on continue d'en parler avec vous. Passionné, on l'entend bien depuis le début de cette émission, passionné, amoureux de la nature. Et ça, on n'a pas souvent l'habitude de coller le mot chasseur avec amoureux de la nature. C'est peut-être le moment d'apporter votre témoignage à vous aussi. On vous attend, à tout de suite.
Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Tout le monde sait ce que c'est que la chasse, mais peu de gens la comprennent et savent exactement qui sont les chasseurs. Eh bien, on a décidé de tout se dire, et c'est vous qui venez en parler, vous qui êtes chasseur, qui pratiquez, qui connaissez, qui défendez la chasse. 0810 055 056, appelez-nous, venez nous parler de vous. Notre grand témoin, c'est le rédacteur en chef du Chasseur français, Antoine Berton. Et nous sommes maintenant dans le Doubs avec Gérard. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour France Bleu.
Merci d'être avec nous Gérard, vous êtes chasseur et vous dites faut pas mettre tous les chasseurs dans le même sac.
Oui, je suis un petit peu malheureux à ce niveau-là parce que déjà on met beaucoup, on pense que les chasseurs c'est tous des alcooliques alors que déjà je fume pas, je bois pas l'alcool surtout. Donc il faut enlever cette image du chasseur qui est alcoolique. Je pense que le chasseur a quand même vraiment son importance dans le monde de la chasse. On plante énormément de haies, déjà. On est des écologistes avant tout, à mon avis. On est les premiers à planter des haies, parce que les haies sont arrachées chaque année, des milliers de kilomètres sont arrachés par les agriculteurs. Et quand on peut remettre des haies, on en remet, pour la petite faune, entre autres. Et savoir aussi que on ne tire pas sur tout ce qui bouge. Moi, je sais que je suis assez sensible quand je prélève un sanglier ou un chevreuil, parce que c'est vrai, on supprime la vie d'un animal. Je pense qu'il faut avoir un petit peu de cœur quand même pour ces animaux, qui donnent beaucoup de plaisir à les observer. C'est vrai qu'après, ma foi, on tire, on est obligé de faire, on est obligé. Si c'est pas nous qui le faisons, effectivement, ça sera des gardes de l'ONF, de l'ONCFS, disons du moins, qui vont le faire, des gardes particuliers, des personnes qui seront rémunérées pour faire ça. Sachant que nous, on paye quand même énormément, on dépense énormément d'argent pour chasser, pour notre passion, pour aller dans la forêt, entre autres. Et on ne tire pas sur tout ce qui bouge. On a quand même donc ce que les gens ne savent pas, on a des prélèvements à respecter, un certain nombre d'animaux à prélever. Comme dans ma commune, par exemple, on a une quinzaine de chevreuils à tirer. Si on écouterait les particuliers, l'ONF, il faudrait en tirer plus, parce que les chevreuils, ils détruisent trop de jeunes plants dans la forêt. Alors que bon, je pense pas quand même la forêt, elle peut supporter quand même le nombre d'animaux. Hein. Mmh. Donc nous, on est pour en tirer une quinzaine, alors que si on écouterait L'ONF, il faudra en tirer plus que 17-18 à peu près. Au niveau des sangliers, c'est pareil, hein, on a des prélèvements à respecter, on ne tire pas n'importe quoi. On
mais alors ça, c'est décidé comment? Excusez-moi, je vous coupe Gérard et je me tourne vers Antoine Berton, parce qu'il y a peut-être plein de gens qui nous écoutent et qui connaissent rien à la chasse. Quand on décide, on se dit tiens, j'aimerais bien chasser, comment ça se passe concrètement? Il faut un permis déjà, de toute façon.
D'abord, il faut un permis qui doit être ou départemental ou national, de durée temporaire ou de durée annuelle. Ce permis vous donne le droit d'aller chasser, mais ne vous donne pas le droit d'aller chasser partout.
Ensuite, sur notre zone
voilà. Ensuite, conservée. Vous devez acquitter un accès au territoire. Là, notre invité Gérard parlait de l'Office national des forêts. Il y a ce qu'on appelle des territoires domaniaux qui appartiennent à l'État ou aux communes que les chasseurs vont louer par bail pour une durée déterminée. Dans ce bail, il y a un nombre, un quota d'animaux à tirer. Et le chasseur peut être verbalisé s'il n'atteint pas ce nombre d'animaux minimal à tuer.
Ah oui?
Oui. Il faut le savoir, il faut que vos auditeurs sachent que les chasseurs ont beaucoup d'obligations et qu'ils peuvent se retrouver justiciables s'ils ne remplissent pas.
Mais alors un chasseur qui dit « moi j'aime partir à la chasse pour être au contact avec la nature, je me promène et je n'ai même pas forcément envie de tirer sur l'animal », il peut être verbalisé alors?
Alors,
parce qu'il n'aura pas à chasser assez.
Collectivement. C'est-à-dire que sur des chasses communales, sur des chasses privées, ce n'est pas forcément le cas. Mais vous avez ce que l'on appelle le plan de chasse. Ce plan de chasse est une sorte de curseur que l'on monte par territoire. Et ce curseur va vous indiquer le nombre d'animaux, de grands animaux à tuer sur une saison. Aussi maintenant de plus en plus sur des petits animaux qui sont surveillés et que l'on ne veut pas voir disparaître. Donc les chasseurs s'auto-limitent, voire arrêtent complètement la chasse en disant le plan de chasse est à zéro. Pour les grands animaux, puisque Gérard en parlait, vous avez des espèces comme les grands cervidés, donc le cerf, la biche, le faon, mais aussi le chevreuil qui commet des dégâts forestiers. Le sanglier, lui, commet des dégâts aux cultures. Bon, le sanglier est généralement classé nuisible, mais il peut être aussi classé gibier. Et dans ces cas-là, l'État fixe un certain nombre d'animaux à tuer par zone géographique. Et si les chasseurs n'arrivent pas à ce quota, ils peuvent se retrouver devant les tribunaux administratifs ou devant une décision de justice qui dit, voilà, vous êtes verbalisé.
Contrainte, en fait. Ça vous fait plaisir, Gérard, qu'on fasse une émission sur la chasse?
Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tellement la parole quand même à ce niveau-là. On n'a pas le temps de nous défendre. On est souvent en opposition avec des personnes qui sont anti-chasse et on n'a pas vraiment notre mot à dire, quoi. J'aurais encore une petite précision à dire aussi. C'est qu'au niveau de tout ce qui est dégâts gros gibier, c'est avec nos cotisations, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est quand même tous les chasseurs quand même qui payent tous les dégâts agricoles.
60 millions.
60
voilà.
millions d'euros.
Wow. Voilà, tout à fait. C'est pas le particulier lambda qui paye, c'est les chasseurs qui payent.
Nous payons pour tout le monde.
Merci d'avoir été avec nous, Gérard. On vous embrasse et la chasse continue. C'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
Et on se dit aujourd'hui sur la chasse avec vos appels et vos témoignages de chasseurs. L'objectif de cette émission, c'est avoir une vision claire et fidèle des chasseurs d'aujourd'hui, loin de l'image qui est parfois véhiculée. Racontez-nous la tradition qui se transmet dans votre famille, les moments de partage, le plaisir aussi que vous avez. On parlait beaucoup de liens avec la nature, défense et protection de la nature, pardon, je vais y arriver. On en parle avec vous et en compagnie de notre grand témoin, le rédacteur en chef du Chasseur français, c'est Antoine Berton. Et nous partons maintenant en Dordogne. C'est bien, on sillonne vraiment tous les territoires aujourd'hui. Stéphanie est avec nous. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Vous êtes chasseresse?
Oui, exact.
Ça, j'ai bien appris. On ne dit pas chasseuse, on dit chasseresse. Hein.
Oui.
Depuis 9 ans, alors, ce n'était pas du tout votre univers à la base?
Non, à la base, je n'avais pas une très bonne image des chasseurs. Donc, j'ai eu la chance de connaître mon mari. Et le dimanche, j'ai commencé un petit peu à le suivre dans les bois.
Par curiosité au début peut-être, se dire
voilà,
qu'est-ce qu'il fait.
Et donc après on a donc lui il avait quelques chiens. Donc moi j'ai toujours aimé les animaux. Et donc au début je le suivais vraiment pour les chiens. Donc après j'ai appris un petit peu le dressage et tout ce qui était avec. Les moments conviviaux qu'on partageait tous ensemble. Et de là j'ai décidé de passer mon permis de chasse. Voilà, pour pas forcément pour avoir un fusil, mais voilà, pour avoir le permis de chasse. Et si un jour j'aurais souhaité Donc voilà, c'était juste pour dire que par rapport aux chasseurs, que c'était quand même surtout un moment convivial qu'on partageait en famille. Il y a mon beau-père, il y a les enfants qui nous suivent. C'est des moments conviviaux quand on est à table. Ça permet de pendant une journée, d'être dans les bois, de penser à rien sauf à ça, de s'aérer, on va dire.
Mais quand vous dites Stéphanie, moi c'était pas mon milieu et j'avais une image aussi des chasseurs. Vous aviez l'image, quelle image vous aviez vous de la chasse avant de connaître ce milieu?
Mais en fait, je comprenais pas pourquoi on tuait des animaux en fait, le gibier, on va dire. Et voilà, et c'est vrai que maintenant que je suis vraiment dans la chasse, je comprends énormément que si il y aurait pas les chasseurs pour réguler, ça serait un peu le bazar quoi.
Et puis c'est bien que ce soit une femme aussi qui prenne la parole. Il y en a de plus en plus, Antoine Berton, des femmes des femmes qui chassent.
Oui, et je félicite Stéphanie pour son témoignage et pour son entrée dans le monde de la chasse. Bienvenue, profitez et continuez à exercer ces belles responsabilités parce que je crois que vous êtes investi dans le milieu associatif cynégétique. Il y a en effet de plus en plus de femmes. De tout âge, hein. On a des très jeunes filles, 15 ans, qui s'engagent dans la chasse, comme des jeunes femmes, des femmes un peu plus âgées. On a vraiment toutes les couches d'âge qui viennent de rang féminin rejoindre la chasse. Mais aujourd'hui, la part féminine de la chasse est encore faible. Elle est, je pense, autour de 5%.
Mais elles sont là aussi peut-être pour donner une autre image aussi, les femmes. C'est peut-être bien d'entendre les femmes. Je suis très contente qu'on ait Stéphanie, à l'antenne aujourd'hui.
Moi aussi, je suis ravi. Et cette part féminine augmente. Pas assez à mon goût, mais on voit que l'industrie commence à préparer des armes spécialement pour les femmes, des vêtements pour les femmes. Donc c'est bien, c'est cette part féminine grandit. On n'a pas encore de responsables nationaux féminins. J'espère que des femmes emprunteront le chemin des responsabilités fédérales ou dans l'établissement public Office national de la chasse et de la faune sauvage, car nous avons besoin de femmes. Je crois que la femme est un vecteur extrêmement positif d'une activité, je pense notamment à la chasse, et je rappellerai le rôle des femmes de tout temps dans la chasse, puisque la chasse était l'enseignement de la nature et l'enseignement de la défense de soi-même par rapport à l'adversité.
De toute façon, le monde irait beaucoup mieux s'il n'y avait que des femmes qui le dirigeaient. Parenthèse fermée, c'est pour rire, messieurs, c'est pour rire. Stéphanie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous dans cette si jolie région qu'est la Dordogne. En plus, je vois que vous êtes à Sarlat. J'ai envie de dire Vénarde. À bientôt, Stéphanie. Au revoir.
Si, au revoir.
Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu.
Et aujourd'hui, on se dit tout sur la chasse avec vos appels, vos témoignages et en compagnie d'Antoine Berton, notre grand témoin, rédacteur en chef du Chasseur français. Et on va terminer cette émission, ça passe très très vite, avec Pascal dans les Landes. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Vous aussi, vous chassez, vous cuisinez aussi.
Oui.
Ça, c'est important, on n'en a pas parlé.
Et oui, j'ai entendu tout à l'heure, vous avez parlé de la cuisine avec la chasse. Ouh, ça m'a fait titre. Ça a été très très dur pour avoir le standard, mais j'ai quand même réussi.
Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Hein. Ben oui, ça concerne énormément de monde. Vous chassez depuis combien de temps, Pascal?
Eh bien, ça fait 28 ans.
28 ans?
Voilà.
Ah oui.
Bon, je peux dire mon âge, je fais 50 ans l'année prochaine, voilà.
D'accord.
Voilà, le plus bel âge.
J'adore la chasse. J'adore la chasse, et voilà. C'est un milieu où c'est convivial, c'est sympa, c'est le monde de chasse, on oublie tout, tous les soucis, on est bien, voilà.
Vous chassez régulièrement, de temps en temps, comment ça se passe pour vous?
Oui. Bon, moi, je chasse surtout le petit gibier, voilà. Parce que bon, après battu tout ça, bon, moi je l'ai eu fait, mais bon, question santé, j'ai dû arrêter certaines pratiques de chasse. Mais après, bon, c'est surtout moi le passage, comme on dit ici dans les Landes, c'est quand il y a la palombe, quand il y a surtout la grive, et voilà, et après je cuisine des grives au foie gras, et voilà, qui ont été d'ailleurs sur des recettes donc que j'avais mis sur le je fais un peu de pub, mais tant pis, sur le Chasseur français.
Bah, vous pouvez faire de la pub, c'est notre invité.
Ah oui,
il y a pas de problème.
Salut à ce grand monsieur, voilà, parce que je l'ai vu en photo et voilà.
Je sens que je vais venir vous voir en chair et en os.
Ah mais venez, il y a ce qu'il faut.
Parce que on va causer recettes de palombe et de grive, là. et même de bécasse. Hein.
Mais je vous voyais avec un grand sourire, Antoine, parce que Pascal, voilà, on n'a pas abordé la cuisine et ça fait vraiment partie de la chasse. Quand on parle de la chasse, on parle aussi de cette convivialité de la cuisine, de la table.
Alors, je crois que toutes vos auditrices et auditeurs ont parlé de cette convivialité qui accompagne la chasse. Et juste avant de répondre, je voudrais faire un énorme bisou à travers les ondes à Pascal, parce que c'est un souffle puissant de bonheur de vivre, de joie de vivre qu'elle vient de transmettre à tous les auditeurs de France Bleu. Franchement, Pascal, vous donnez de très très beaux témoignages de la forêt landaise. Oui, la cuisine est l'aboutissement logique de la chasse. Si on tue un animal juste par souci de régulation, on a fait que la moitié du chemin. On rend service à la nature, on rend service à la société, mais on s'oublie soi-même. Or, la chasse, c'est un mode de vie. On chasse, on tue des animaux, on entretient le milieu pour que les animaux puissent vivre aussi. Et ce que l'on tue, on le cuisine, on le prépare et on nourrit la communauté ou on se fait plaisir à soi-même. C'est ça la chasse. C'est un ensemble. On apprend la nature, on prend sur la nature et on se paie en plaisir sur la nature avec une bonne cuisine.
Et là, alors je sais que c'est pas dans toutes les régions. Dans les Landes, la chasse a ouvert, Pascal ?
Oui,
le 9, d'accord. Le 9 septembre. Voilà. D'accord. Donc vous y êtes allé déjà?
Oui.
Voilà.
Oui. Oh, c'était le faisan, mais bon, je l'ai tiré, mais il vole encore, mais c'est pas grave. Mais je me réserve surtout pour le passage de la grive, là. Ça va commencer, là. S'il fait un peu frais le matin, ça devrait être bien.
La grive reproduction. Au foie gras, j'ai bientôt compris la recette.
Ah, ça, c'est le top.
Je viens d'avoir Jean-Claude Ricci, qui dirige l'Institut méditerranéen du patrimoine cynégétique et faunistique. Et c'est un homme qui écoute les grives avec un radar. Donc, toute la population de grives en Europe se porte bien. Excepté la mauvaise, enfin on est toujours sur des dizaines de millions d'individus, donc il y a pas de souci. Les grives restent un peu au nord parce qu'il fait pas assez froid. Mais enfin, je vous souhaite une bonne migration.
Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous, d'avoir conclu cette émission. Merci à tous les chasseurs qui nous ont rejoints pendant cette émission. Ceux qui n'ont pas aimé, eh ben écoutez, j'ai envie de dire, c'est comme ça. On se dit tous les jours, on ouvre une fenêtre. La semaine dernière, on parlait des véganes. Il y a eu que des véganes qui sont intervenus sur l'antenne. Aujourd'hui, les chasseurs, et demain, ce sera encore un autre thème. Merci beaucoup Antoine Berton d'avoir été notre grand témoin. On trouve toujours le spécial ouverture de la chasse, le numéro de septembre du Chasseur français, puis celui d'octobre bientôt arrivé avec les cèpes qui sont à l'honneur en couverture.
Oui. Merci beaucoup Vanessa. Je rappelle, vous faites vraiment honneur au service public en ouvrant les ondes au monde de la chasse, qui leur permettre de parler comme ça naturellement de ce qu'ils font.
Merci à vous. On restera dans la nature demain dans On se dit tout parce qu'on va parler du jardinage. Jardinier autrement, sans pesticides. C'est très tendance en ce moment. C'est dans l'actualité aussi.